Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils? Où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière? Ensuite, de ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique? Quel est leur sujet de recherche actuel? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences? Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Sean.
Comment tu vas Julien?
Ça va bien et toi?
Ça va très très bien, je te remercie. Merci de m'avoir sur le podcast.
Ouais, avec plaisir. Avec plaisir, ben, j'écoute ce que tu fais depuis, je pense, le début. Alors, les épisodes en anglais, on en parlait tout à l'heure en off. Pas forcément. J'essaye. Mais les épisodes en français, c'est beaucoup plus accessible et je me régale.
Bah, c'est cool. Merci beaucoup. C'est sympa.
Top, top. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton parcours, d'où tu viens, où tu as grandi, où tu as voyagé?
Bien sûr. Alors, je vis en Suisse actuellement. C'est là où j'ai grandi aussi. Entre temps, je me suis exporté 7 ans au Canada. J'étais à Vancouver, sur la côte ouest du Canada. Et c'est là-bas où j'ai commencé à coacher. Avant ça, j'ai fait pas mal de sports. J'ai fait deux, trois sports de combat étant plus jeune, du judo, du karaté, du kung-fu. J'ai fait du foot et j'ai fait du rugby aussi. Et au moment où je me suis exporté au Canada, c'était le rugby dans lequel j'étais. Et à ce moment-là, c'est pendant que j'étais au Canada que j'ai commencé à lire des bouquins de préparation physique, écouter des podcasts. Je faisais de la peinture en bâtiment à ce moment-là. Et ouais, je passais mes journées à écouter des podcasts sur mes échelles, à peindre les maisons et à lire des bouquins type The Science and Practice of Strength Training dans le bus en allant au boulot. Et c'est ma femme qui m'a dit un jour, mais pourquoi les gens ils te paieraient pas pour toutes ces études que tu fais à côté? Et je me suis dit, c'est vrai ça, peut-être qu'il faut que je me lance dedans. Et je me suis lancé, donc j'ai passé un certificat de coaching au Canada qui était avec la NSCA. Et à partir de là, j'ai commencé à coaching privé, coaching de groupe. J'ai fait un petit peu de prépa physique au Canada, mais c'est vraiment quand je suis revenu en Suisse que ça s'est concrétisé. J'ai repris la prépa physique avec mon club local ici. J'ai commencé à bosser avec l'Académie suisse aussi, et donc avec les jeunes rugbyman de l'équipe suisse. J'ai fait ça pendant 2-3 ans et en parallèle, j'ai développé mes activités dans un premier temps de coaching privé. Et maintenant, à ce stade, je me focalise essentiellement sur tout ce qui est des testings, des profilages physiologiques que j'effectue beaucoup dans le crossfit, pas mal dans les sports d'endurance aussi. Et j'accompagne quelques athlètes en individuel et j'offre aussi en parallèle à tout ça des programmes d'entraînement et de la formation pour les coachs en ligne. Je dirais en plus de tout ça, il y a tout ce qui est du contenu, donc le podcast, la chaîne YouTube, Instagram, avec pas mal de contenu que je partage tous les jours. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon.
Et puis hyper bien résumé, c'est efficace. Et cette passion justement pour la prépa physique, ça t'est venu du coup sur le tard, tu vois, qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'est le voyage au Canada où tu t'es dit, ben, je sais pas, on va dire c'est le continent américain et voilà, c'est très bien marketé et tout ça, et tu t'es dit, ben en fait, ça me passionne et en fait, j'ai envie de faire ça? Ou est-ce que tu avais déjà ça en Suisse et puis après, tu t'es lancé dans d'autres études et ça t'est revenu justement là-bas?
Non, je pense que ça a commencé quand j'avais commencé le rugby ici en Suisse. J'ai fait 2 ans de rugby avant de m'exporter. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce qui se passait en dehors du terrain, d'aller à la salle de sport. Au début, c'était « Ah ouais, utiliser des haltères pour faire ton développé couché, c'est mieux qu'une barre parce qu'il y a de l'instabilité et parce que ça va être plus spécifique à la discipline. » Et ce genre de raisonnement, c'est par là que ça a commencé. Et ensuite, j'ai pas sorti le nez, quoi. Je suis resté le nez plongé dedans. J'ai découvert dans un premier temps, autour de ces moments-là, le CrossFit. C'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant une année au Canada. Après ça, j'ai jamais vraiment voulu faire de compète en CrossFit, mais j'ai fait ensuite quelques compètes en haltérophilie. Et par la suite encore du rameur indoor. Le CrossFit, c'est un monde dans lequel donc je gravite depuis plus de 10 ans maintenant. Et dans lequel j'ai la chance de travailler, mais non, au départ je dirais c'était en complément au rugby Et après, ça a pris de l'ampleur et sa propre place maintenant.
Ouais, top, top. Et tu dis que c'est ta femme qui t'a aidé à passer le pas. Comment ça s'est passé? Tu vois, pendant combien de temps, on va dire, tu as étudié tout ça? Et quand elle te le dit de suite, tu dis, putain, c'est vrai, elle a raison, il faut que je me lance? Ou il a fallu vraiment quelques mois pour que tu te dises, ah, ça fait plusieurs fois qu'elle me répète la même chose, elle a peut-être raison, tu vois?
Non, elle me l'a dit, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Je lisais un bouquin à ce moment-là qui s'appelle The 4-Hour Workweek de Tim Ferriss, que beaucoup de monde a lu. Et je pense que c'est le livre qui m'a fait ouvrir les yeux sur les possibilités qu'il y avait au-delà de travailler pour quelqu'un d'autre d'avoir sa propre entreprise. Je pense que ça a été un gros point important, un point de transition important. Et ensuite, en termes de temps, non, je crois qu'il y avait un battement de 3 mois entre le moment où j'ai arrêté de travailler sur les chantiers et j'ai commencé à coacher. Donc, c'était le temps de lire le bouquin plusieurs fois et de passer l'examen, à savoir que pour l'examen de la NSCA, il faut que ce soit un examen dans un centre de test validé. Donc, faut avoir ton passeport, ils vérifient ton identité, ils s'assurent que c'est bien toi pour aller passer le test. Donc, c'était assez rigoureux. Mais non, c'est passé assez bien. Comme je t'ai dit, j'ai lu le bouquin plusieurs fois, j'ai pris des notes et après je suis allé passer le test. Donc c'est ça. La transition a pas pris beaucoup de temps. Après, c'est clair que les choses se sont pas faites du jour au lendemain. J'ai pris les premiers mois pour avoir mes premiers clients qui étaient souvent des amis ou de la famille et commencer à développer mes activités, bosser ensuite dans des salles. Donc après ça, c'était quelque chose qui était assez progressive, bien entendu, mais non, la transition s'est faite assez rapidement, je dirais.
Et comment vous vient l'idée à tous les deux, justement, de revenir en Suisse? Tu vois, si tu commences à entre guillemets, à faire ton trou et avoir ta clientèle, etc., qu'est-ce qui, au bout de moment, quel autre déclic fait que vous dites, eh bien, maintenant, on retourne en Suisse, là d'où tu viens, et on continue ça, mais en Suisse?
Alors c'était l'élan est venu de ma femme, c'était son idée encore une fois, elle a toutes les bonnes idées ma femme, et elle oriente pas mal de notre quotidien, mais l'idée c'était de revenir dans un cadre de vie qui était positif. Vancouver c'est une grande ville, on n'est pas vraiment fans des grandes villes, on aime plutôt les grands espaces et c'est le cas ici, c'est une ville Nyon, mais c'est pas une très grande ville non plus, c'est pas Genève, c'est pas Lausanne, et ça nous permet d'être plus proche de ma famille aussi et d'avoir un cadre de vie qui est propice à la vie de famille aussi. On a 3 garçons, donc c'était voilà une des raisons pour lesquelles on a décidé de revenir en Suisse.
Très bon choix, très bon choix. Et justement, alors quand tu rentres en Suisse, c'est à ce moment-là que tu te dis tout ce que j'ai appris en lecture et en podcast, ben j'ai aussi envie de transmettre et de donner des informations et des compétences comme ça. C'est à ce moment-là que tu te dis je vais lancer Upside Strengths ou ça met plus de temps et c'est petit à petit?
Alors Upside Strengths existait déjà quand j'étais au Canada, je l'avais lancé déjà là-bas, mais après c'est vrai que le fait de commencer les podcasts, le fait de partager autant de contenu sur YouTube et sur Instagram, c'est quelque chose qui s'est fait une fois que je suis revenu en Suisse. Il y a eu une période de transition au moment où on est revenu. Je suis revenu et j'ai commencé à bosser pour une autre entreprise, faire de la c'était de la manutention dans un supermarché. Et à ce moment-là, l'idée c'était de pointer, de faire son taf, de peut-être grimper les échelons tranquillement, mais de se concentrer sur les choses qui sont en dehors. Mais c'est clair qu'après un mois ou deux, j'ai réalisé que je pouvais plus travailler pour quelqu'un d'autre, parce que une fois que t'as fait le tour de la question et que t'as goûté un petit peu à l'entrepreneuriat, dès que tu bosses pour quelqu'un d'autre, tu construis le rêve d'un autre. C'est pas ton rêve à toi, c'est l'entreprise à quelqu'un d'autre. Et comme je t'ai dit, j'ai pas pu faire ça très très longtemps. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me relancer dans le coaching, ce qui a pris quand même 6 mois à peu près pour que je puisse me permettre de donner ma démission et de passer à plein temps. Timing parfait, c'était février 2020 quand j'ai commencé j'ai recommencé en tant qu'indépendant ici. Donc un mois plus tard, tout fermait. Mais ouais, c'était une phase un petit peu c'était une phase un petit peu difficile. Mais après ça, ben, le fait de commencer à coacher, le podcast, c'était une évidence, quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Et j'ai eu la chance de pouvoir commencer avec mon bon ami K-Swiss, Kevin Ferreira, qui est à Genève, qui avait accepté d'être mon premier invité sur le premier podcast avant même que le podcast existe. Et c'est par là que j'ai commencé. Et depuis, pour moi, c'est une évidence de partager, un, pour, on va dire, rendre un petit peu de ce que j'ai pu, moi, apprendre de tous les gens qui partagent gratuitement, et également pour essayer de faire avancer la conversation, non seulement au sens large, mais aussi dans ma tête, parce que c'est vrai que le contenu que je crée, moi, ça m'aide à formaliser mes pensées, à les structurer, à voir là où il y a peut-être encore des trous, des choses à combler. Donc c'est un travail autant pour autrui que pour moi, ce contenu, et c'est quelque chose aussi que je prends énormément de plaisir à faire. Donc c'était, voilà, depuis le début c'était une évidence, et c'est quelque chose que je vais continuer à faire, parce que maintenant ça fait partie intégrante de la manière dont je fonctionne et ce que Upside Strength aussi représente pour notre industrie.
Et du coup, dans tout le contenu que tu produis, tu vois, je pense au podcast, aux pensées du jour, à tes présentations sur YouTube, aux formations, est-ce qu'il y a un truc que tu aimes le plus faire dans tout ça?
Je pense les podcasts et les présentations que je crée aussi pour la chaîne YouTube. Les pensées du jour, c'est, voilà, des petites vidéos que je fais de manière assez brute. C'est moi et mon téléphone en règle générale. Après, c'est vrai que passer un peu plus de temps et créer une belle présentation qui a du sens et qui apporte quelque chose de concret, ça, c'est toujours quelque chose que je prends énormément de plaisir à faire. Et les podcasts qui me permettent d'élargir mes horizons et de continuer à apprendre et de poser les questions aux experts, ça, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Pas plus tard qu'hier, j'avais David Bishop sur le podcast, qui est un des pionniers dans la recherche, notamment sur le développement mitochondrial, autant côté sportif et performance que côté santé. Et tu vois, rien qu'avec un interview comme ça, j'ai pu mettre certaines choses à jour dans ma tête, certains concepts, et modifier certaines de mes perspectives. Donc c'est toujours extrêmement enrichissant. Donc je dirais que d'un côté, si je devais structurer tout ça, d'un côté j'ai les podcasts où c'est moi qui apprends et c'est moi qui vais essayer d'aller plus loin dans mes réflexions et voir là où je peux encore améliorer les choses. Et ensuite il y a les présentations où je vais ramener tout ça, synthétiser toute cette information et la partager pour la rendre accessible au plus grand nombre.
C'est stylé, ça fait un genre d'espèce d'entonnoir. Tu sais, au tout début, ben, t'as le podcast où t'interviews, comme tu le dis, les gens qui t'intéressent et sur les thématiques qui t'intéressent. Et au bout de l'entonnoir, ce que tu en ressors, c'est des formations un peu, on va dire, condensées sur ce qu'ils t'ont appris et sur ce que t'as pu lire.
Ouais, exactement. Et je pense que c'est un exercice qui me convient bien. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire, cet effort de synthèse. Je pense que c'est aussi quelque chose qui manque aujourd'hui. Donc, je vois clairement une opportunité à ce niveau-là. Il y a plein de gens qui font du travail de très bonne qualité, mais je pense qu'il y a de la place pour essayer de tisser plus de liens entre les différentes méthodes, entre les différents principes, entre les différentes approches. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mon contenu et, comme tu l'as dit, mes formations, où j'essaie d'amener une vue globale, une perspective globale qui essaye de tout réconcilier, si on veut bien, ou de, en tout cas, de réconcilier ce qui est réconciliable, pour que ce soit utile au plus grand nombre et que chacun ensuite comprenne en gros les règles du jeu, si on veut bien. Je parle par exemple des sciences du sport et notamment de la physiologie de l'exercice. C'est un monde où, tu le sais mieux que moi, il y a encore tellement de guéguerres entre différentes terminologies, différents outils de mesure, différentes manières de faire. Mais il y a un tronc commun. Il y a un tronc commun qui est la physiologie humaine et, dans le cadre de la performance, voilà, qu'est-ce qu'on peut comprendre du fonctionnement du corps humain, et encore une fois, essayer d'éviter de tout dissocier, mais essayer de tout comprendre de manière globale, de manière holistique. Et je pense que c'est clairement quelque chose qui est nécessaire, surtout peut-être pour ceux qui sont pas dans ces milieux spécialisés, mais qui ont quand même envie de se former ou d'avoir des notions de base, de commencer avec une vue globale. Je pense que c'est une bonne manière de faire pour avoir une perspective du terrain et de savoir ce qui va être possible, des possibilités, plutôt que de, on va dire, d'aller se caser avec une méthode en particulier ou un ou une protagoniste qui va avoir sa philosophie et sa manière de faire, et de peut-être être un petit peu aveugle aux autres possibilités, parce que et ça on le sait, et plus on est jeune et plus on est fougueux et plus c'est vrai, on a tendance à se raccrocher au peu de choses qu'on comprend, et plus on avance et plus on réalise que on comprend pas grand chose. mais ça aide d'avoir une perspective globale pour avancer.
C'est l'effet Dunning-Kruger. Tu sais, où quand tu sors des études, tu crois que tu sais tout et tu te rends pas compte que tu sais rien.
C'est ça.
Et petit à petit, plus tu avances, plus tu te dis, ben, en fait, je sais que je sais pas. Et puis après, tu continues d'avancer, etc. Ouais, c'est passionnant. Et tu bosses maintenant aussi avec Swiss Exactement. Sailing Team. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle avec eux et comment l'opportunité s'est présentée?
Ouais, c'est ça. Donc, je bosse avec, comme tu l'as dit, l'équipe suisse de SailGP, qui est une catégorie de bateaux à voile, de bateaux volants. En gros, c'est un peu la Formule 2 de la voile. On a la Coupe de l'América et notamment l'équipe Alinghi, qui est une équipe suisse qui est, si on veut, la Formule 1. Et eux, c'est clairement la Formule 2. La particularité, c'est que les navigateurs qui sont sur le bateau pour alimenter le bateau, ils font ça avec des winches ou des vélos à bras. Donc, en gros, c'est des gars qui poussent plus de watts avec leurs bras que le commun des mortels avec leurs jambes. Comment je me suis retrouvé là-dedans? Bah, Julien, un des gars de l'équipe, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien et avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant. J'ai bossé avec lui dans le rugby quand j'ai repris la prépa physique à Nyon ici. Il a joué avec mon frère aussi au club de rugby. Son petit frère, Julien, Nico, qui est maintenant avec Alinghi, il était en voile avant en catégorie laser et je me suis occupé de Nico pendant plus de 2 ans en préparation physique avant qu'il se fasse recruter par Alinghi. Et donc tout ça a fait que quand Julien avait besoin d'un cadre pour s'entraîner, il a fait appel à moi et j'ai commencé à bosser avec lui il y a une année maintenant. Et entre-temps, j'ai récupéré 2 de ses coéquipiers, donc Jérémy et Elliot, qui font les 2 parties de Swiss LGP. Et donc, j'ai ces 3 athlètes de cette équipe en suivi individuel, avec comme objectif avant tout un maintien au niveau de la santé, parce que pour les courses, c'est pas mal de déplacements et ils ont souvent un planning chargé en dehors des compétitions eux-mêmes de leur côté au niveau que ce soit professionnel ou personnel. Donc, essayer de gérer au mieux tous ces éléments et de faire en sorte qu'ils soient en forme pour aller envoyer des watts sur le bateau quand c'est le moment de le faire.
Super. Et justement, alors qu'est-ce que tu... Donc, tu as 3 de ces personnes-là. Combien ils sont? Ils sont 8, c'est ça, par équipe?
Ouais, ils sont pas mal par équipe. Ils tournent pas tous en même temps sur le bateau et ils ont pas tous les mêmes rôles. Donc il y a ceux qui ont des rôles un peu plus physiques, les grinders. C'est avec eux que je travaille. Mais après t'as aussi ceux qui pilotent le bateau, ceux qui font monter et descendre les ailes. Donc il y a pas mal de rôles différents sur le bateau. Ouais.
L'hôpital de la Tour, on est partenaire de Alinghi. Donc c'est Alinghi Red Bull Racing, je crois maintenant, ça s'appelle. Et du coup, on les avait testés, ouais. Et effectivement, c'est impressionnant la puissance qu'ils dégagent avec les membres sup. C'est un truc de fou.
Ouais, c'est assez incroyable. Pour te donner une idée, les deux meilleurs que j'ai là, Julien et Elliot, ils poussent en dessus de 300 watts avec les bras pendant 20 minutes. Et Jérémy, il est pas loin derrière, aux alentours des 250. Donc, ça envoie du lourd. Je te dis, la majorité des compétiteurs de CrossFit avec lesquels je bosse, ils poussent même pas ça avec les jambes.
Ouais, c'est ouf. Et du coup, comment tu adaptes leur entraînement? Est-ce que tu travailles quand même les membres F, tu vois? Est-ce que il y a une utilité, entre guillemets, à le bosser ou à le bosser vraiment sur un niveau assez faible? Ou est-ce que tu le bosses pas du tout? Tu vois, qu'est-ce que tu fais?
Au niveau des membres, c'est important qu'ils soient forts et qu'ils soient agiles et stables parce qu'il y a des déplacements sur le bateau qui se font alors que le bateau va à 80 km/h, où ils sont en train de presque sauter sur un trampoline, sur les filets qu'il y a sur le bateau. Et donc, ça demande pas mal de coordination. Donc, il y a du travail de renfort et de saut à ce niveau-là. Mais je dirais que autrement, la majorité du travail se fait sur le haut du corps avec beaucoup de renfort et pas mal de volume sur le grinder aussi, donc le vélo à bras. Après, on utilise quand même le vélo comme modalité de travail parce que je pense qu'au niveau central, c'est difficile de faire mieux comme modalité de travail. Donc, pour développer le cœur, pour développer tout ce qui est tous les aspects du transport de l'oxygène, si on veut bien. Je pense que ça reste du travail qui est très très utile, qui est complémentaire au travail spécifique haut du corps. Donc on a ces deux versants sur lesquels on travaille en permanence.
Et du coup, est-ce que tu t'amuses à croiser sur des séances justement l'aspect, on va dire, aérobie et cardio, et en même temps l'aspect saut, agilité, pour mimer entre guillemets ce qui va leur être demandé en course, c'est-à-dire faire le grinder à bloc, passer de l'autre côté et prendre le risque de chuter ou d'atterrir un peu à l'arrache. Tu vois, est-ce que tu mixes ou est-ce que tu sépares à chaque fois?
Non, je sépare. Pour moi, le meilleur mix, c'est la compétition. Et à savoir qu'ils ont à peu près une compétition par mois et qu'ils ont plusieurs régates sur le week-end, sur le samedi et le dimanche, mais ils ont aussi deux voire trois jours d'entraînement les jours avant où ils se retrouvent avec toute l'équipe et ils naviguent pendant plusieurs heures. Donc mon but, c'est de faire en sorte qu'ils soient en forme pour ces moments-là. Et à mon avis, le fait d'essayer de répliquer le sport et de le mimer, on va dire, ou de le copier, c'est peine perdue parce que ce sera jamais véritablement les mêmes conditions que le sport en lui-même, parce que t'es sur un bateau qui va à 80 km/h, et donc tu peux essayer de faire tout ce que tu veux à la salle, ça restera assez éloigné au final du sport. Donc je préfère me concentrer sur les qualités, on va dire, générales et spécifiques, mais sans nécessairement essayer de répliquer ce qui va se passer sur le bateau. Ça, je le laisse au bateau lui-même.
Top, super. Et justement, alors on revient sur le profilage physiologique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Bien entendu, ouais, c'est un type de test d'effort. Et c'est un test d'effort qui se fait sur une cinquantaine de minutes en général. En gros, c'est des paliers qui durent 4 minutes en continu, à soit une allure donnée en course, soit une puissance fixe. Et ça, on peut le faire sur un vélo. Je l'ai déjà fait avec les gars justement sur le vélo à bras. Je l'ai fait avec Rudy, que tu connais bien, sur le kayak. C'est vraiment possible de le transposer sur plein de modalités différentes. Mais l'idée, c'est d'avoir une dizaine de paliers complétés. Donc pour faire simple, on commence à 1 sur 10 en termes d'effort et on termine à 10 sur 10. Et l'idée, c'est de déterminer notamment les seuils. Donc on va mesurer plusieurs paramètres, la ventilation, la VO2, l'oxymétrie musculaire, le lactate également, le RPE. Et l'idée, c'est de ressortir avec une vue d'ensemble sur la condition physique de l'athlète. En général, condition physique générale, c'est-à-dire que le test, je le fais très, très souvent sur le vélo, même pour des sportifs qui feraient du foot ou qui feraient du crossfit, là où le vélo n'a pas une si grande importance que ça. Mais pour moi, le vélo, ça reste une modalité d'entraînement pour quelconque compétiteur qui doit pouvoir assimiler un travail, une quantité d'entraînement pour leur sport qui est conséquente. Le vélo, c'est une modalité extrêmement simple qui te permet d'accumuler du volume, qui te permet de développer ta capacité de travail. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on fait ces tests très souvent sur le vélo. Et à partir de là, comme je te l'ai dit, avoir une vue d'ensemble sur le profil de l'athlète, ses forces, ses faiblesses, qu'est-ce qu'il doit travailler en priorité. En général, il y a des principes qui ressortent assez souvent, hein, des différents profils que je vais tester. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir, voilà, un aperçu du fonctionnement interne aussi. Il y a un but éducatif à ces profilages. C'est bien entendu pour individualiser le travail, pour planifier les entraînements, mais c'est aussi pour ceux et celles qui souhaitent apprendre à mieux comprendre comment le corps fonctionne. Et vu qu'on mesure tous ces différents paramètres à différents niveaux, on ressort avec une belle vue d'ensemble et une meilleure compréhension de comment les choses fonctionnent. Et comme je te l'ai dit, un des objectifs principaux étant d'optimiser et d'individualiser les entraînements qui suivront.
Ah, super. Et on a parlé justement de CrossFit, on a parlé de voile. Est-ce que qui ça concerne au final? Est-ce que tous les sportifs peuvent être testés? Tous les sportifs, ça va leur apporter quelque chose? Ou on va dire t'es plus sur des sports d'endurance?
Non, je pense que c'est vraiment transversal et au début, je t'aurais dit autrement, mais comme je te l'ai dit, à mon avis, aujourd'hui, ce test-là, c'est un test de condition physique générale qui va donc s'appliquer à tout type d'athlète, peu importe ta discipline sportive, parce que au final, pour t'entraîner, pour être bon dans ton sport, il faut t'entraîner beaucoup. Si tu veux t'entraîner beaucoup, il faut pouvoir assimiler, absorber le travail, et si t'as pas de condition physique, ça va être beaucoup plus dur. Donc c'est toujours utile pour peu importe le type d'athlète, peu importe le type de sport, d'avoir une bonne condition physique générale, d'être bien en forme pour en gros pouvoir s'entraîner plus et s'entraîner mieux et ensuite pouvoir mieux performer dans son sport. Donc je me restreins de loin pas au sport d'endurance, même si c'est clair que pour eux c'est peut-être encore plus important parce que c'est spécifique à leur discipline et à la grande majorité des entraînements qu'ils effectuent. Mais en gros, dès le moment où tu vas passer une bonne partie de ta semaine à t'entraîner, c'est intelligent à mon avis de bien structurer ses entraînements pour pas perdre son temps et faire n'importe quoi. Et ça peut être donc un test qui est intéressant pour tout athlète ou toute personne qui souhaite développer ça.
Et qu'est-ce qui te passionne là-dessus? Parce que c'est vraiment, on va dire, ta thématique préférée. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et c'est quoi qui t'a passionné? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en apprendre plus là-dedans?
J'ai commencé à investiguer tout ce qui est de la physiologie de l'effort il y a maintenant 3 ans et j'en suis toujours pas ressorti. Et ce qui m'a attiré, c'est j'aime beaucoup comprendre l'aspect, donc le côté mécanistique, même si des fois c'est un petit peu réducteur et on sait que on a la complexité infinie du corps fait qu'on comprendra jamais tout complètement. Mais essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, essayer de comprendre pourquoi et l'interaction entre différents paramètres. Je pense pas nécessairement que d'avoir une compréhension poussée de la physiologie, ce soit nécessaire pour être un bon coach. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui me passionne et donc je me plonge là-dedans. Et le fait de aussi pouvoir travailler maintenant avec tant d'athlètes différents, de voir toute cette panoplie de sportifs, de comprendre l'impact des activités physiques que tu as fait quand tu étais plus jeune, de comprendre pourquoi tu es fait au niveau physique et physiologique par rapport à ton profil inné, on va dire, de voir voilà quels sont les barèmes, les minima, maxima qu'on peut trouver dans un sport et comment on peut comparer différents athlètes dans différents sports. Je prends énormément de plaisir à travailler avec ce large panel de personnes. Autant je pourrais ne travailler que dans un sport, mais pour moi, c'est plus intéressant de voir un petit peu plus large et d'avoir cette perspective globale. Parce qu'au final, je pense que ça va, moi, ça m'aide en tout cas à faire avancer ma compréhension des choses, les modèles avec lesquels je travaille. Et je l'espère pouvoir retransmettre tout ça et faire avancer la discipline au sens large.
Et est-ce que tu trouves des parallèles entre, alors peut-être entre les sports, mais peut-être de manière encore plus spécifique, entre des athlètes qui font des sports différents et qui ont le même profil, tu vois? Et est-ce que tu peux dire, voilà, pour ce sport, le profil optimal, c'est ça, mais toi, ton profil, soit tu vas devoir bosser beaucoup pour atteindre ce profil optimal, soit au final, ton profil, il correspondrait plus à tel ou tel sport, tu vois?
Ce qui est intéressant avec ça, c'est vu que je teste énormément de monde sur le vélo, j'ai plus ou moins la même perspective sur toutes les personnes. Et ouais, c'est clair qu'on va avoir une différence significative à l'heure actuelle entre ceux qui s'entraînent sur le vélo parce que c'est leur discipline sportive ou ceux qui se sont beaucoup entraînés sur le vélo dans le passé ou qui ont simplement une très bonne condition physique. Je dirais que pour les athlètes qui ne viennent pas du vélo mais qui sont très en forme, leur profil va ressembler à un profil de cycliste si on veut bien. Okay. Et à l'autre extrême, pour des personnes qui manqueraient grandement de conditions physiques générales, on va plus se rapprocher d'un profil sédentaire sur le vélo. Et l'idée, c'est d'essayer de faire le pont entre les deux. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'amener ce profil vers plutôt un profil de type cycliste, mais bien entendu, en sachant qu'on atteindra jamais les valeurs absolues ou relatives que ces cyclistes arrivent à pousser parce que on n'a simplement pas assez d'heures dans la semaine pour faire autant de travail. Mais on sait vers quoi tendre, on sait vers quoi on doit essayer de travailler. Et ça, je pense que c'est très très intéressant d'avoir simplement cette perspective de à poids égal dans ce sport-là, les gens sont capables de faire ça. Donc on peut partir du principe que pour être à un bon niveau, il faudrait que tu t'arrives en tout cas à un tel pourcentage de ce profil et essayer de commencer à établir des barèmes. Ça, c'est quelque chose que je vais faire dans les prochains mois, c'est passer en revue toutes les données que j'ai sur les différents crossfitters que j'ai testés parce que je dois avoir plus de 80 crossfitters que j'ai testés jusqu'à maintenant avec différents niveaux de compétition bien sûr, et essayer de ressortir justement ces barèmes de voilà, si tu veux être en forme entre guillemets pour absorber un bi quotidien en crossfit, faudrait idéalement tel ou tel profil. Et je pense que ça peut être utile pour les gens de se rendre compte de la nécessité d'avoir cette base de conditionnement, cette base générale qui te permet ensuite d'être meilleur dans ton sport.
Et du coup, quand tu as fait ton test, après, les athlètes testés, ils repartent avec des préconisations pour faire évoluer leur profil. Et à quel moment tu les retestes? Est-ce que tu les retestes tous, je sais pas, à 3 mois ou à 6 mois, ou est-ce qu'il y en a beaucoup qui se font pas retester? Tu vois, comment, quel temps passe entre le premier test, les préconisations sur l'entraînement et le retest?
En général, s'il y a un retest avec moi, ça va se faire dans les 12 mois. C'est ce que je préconise, en tout cas. Okay. À savoir que, est-ce qu'on pourrait retester dans 3 mois? On pourrait, mais ce que je leur fais faire, c'est un test intermédiaire après 3 mois de travail où ils vont en gros répliquer le format de l'évaluation qu'on a fait ensemble, mais sans nécessairement avoir tous les outils. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent le faire en autonomie. Et à ce moment-là, ils peuvent m'envoyer leur fréquence cardiaque, leur RPE, le palier qu'ils ont complété sur la fin du test. Et très souvent, déjà, rien qu'avec ça, on a des bonnes idées des progrès qu'ils ont effectués. On a souvent des fréquences cardiaques qui tombent de 5 à 10 battements par palier, souvent un ou deux paliers complétés en plus, des RPE qui sont plus bas pour chaque palier par rapport à ce qu'on avait fait à la première évaluation. Je vais dire entre guillemets, ça, c'est les gains qui sont faciles parce que c'est les premiers, c'est les progrès de... Alors, je vais pas dire de débutants parce que je bosse avec pas mal de monde qui s'entraîne quand même sérieusement. Mais vu qu'ils se sont jamais vraiment entraînés sur ces modalités-là, c'est vrai qu'il y a une grosse marge de progression. Donc, on fait de toute façon un retest après quelques semaines de travail, après quelques mois de travail. Mais si ils viennent retester avec moi, je dirais qu'une fois par année, c'est un bon laps de temps. Parce que idéalement, c'est clair que si on s'entraîne sérieusement, chaque année, on devrait voir, par exemple, pour un crossfitter, c'est barre max qui devrait monter quelques kilos. Et idéalement, on devrait voir les paramètres physiologiques bouger également vers la droite progressivement au fur et à mesure des mois et des années. Comme tu le sais, c'est des choses qui prennent du temps. Donc, on veut pas non plus se précipiter et dire qu'en 4 mois, on va changer le monde. Mais c'est un travail qui doit être fait sur la continuité, sur la durée. Donc, je dirais, voilà, une fois par année, idéalement, et peut-être avec quelques petites évaluations intermédiaires pour déterminer où en sont les choses.
C'est trop bien. Trop bien. Et Sean, alors à titre un peu plus personnel, comment tu organises une journée ou une semaine, on va dire, classique, tu vois? Est-ce que t'es organisé avec des créneaux où tu te dis, je sais pas, justement, le vendredi matin, c'est les podcasts, le mercredi, c'est la création de contenu, tu vois? Est-ce que tu fais ça ou est-ce que tu fais un peu plus au jour le jour et tu traites ce qui est à traiter, mais sur l'instant?
Alors là, ces 2 derniers mois, j'étais focalisé sur une formation que j'ai, d'ailleurs que j'ai lancée hier, sur le système respiratoire. Donc la majorité de mes journées étaient dédiées à ça, et c'est la première fois, je pense, que j'ai réussi à prioriser autant sur une tâche comme celle-ci. Donc c'est vrai que j'ai laissé pas mal de choses de côté. Et j'ai, pour ceux qui attendent des réponses à vos emails, je m'excuse et ça arrive. Mais donc ça, c'est des choses que je vais traiter dans les jours qui viennent. Donc, en général, dans le passé, j'ai été assez éparpillé, et j'aime bien tout faire et j'aime bien la variété dans mon emploi du temps. Donc, j'ai tendance à ne pas nécessairement bloquer des heures comme je devrais le faire, mais c'est le sujet du moment. Avec ma femme, on bosse dessus, et c'est quelque chose que je dois améliorer absolument. Mais dans l'idéal, c'est vrai que chaque semaine, j'aurai des créneaux pour effectuer des profilages. Donc, si les gens viennent me voir ici. Après, j'ai toujours des déplacements qui sont prévus assez souvent aussi pour ces tests-là, où je vais faire une journée, 2 jours de test dans une structure, que ce soit une box de CrossFit ou un centre d'entraînement. Et après, j'ai bien sûr les temps qui sont dédiés, comme tu l'as dit, à la production de contenu, au podcast. Là, c'est les vacances d'été, donc les enfants sont pas à l'école, ce qui complexifie un petit peu la chose. Mais c'est vrai que dans l'idéal, dans les mois qui viennent, un petit peu plus de structure. Et comme je te l'ai dit, essayer de vraiment prioriser une ou deux tâches chaque semaine et me concentrer sur celle-ci pour faire avancer les choses.
Top, top. Et est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré?
Des gens qui m'ont inspiré depuis le début, un gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk, qui traite beaucoup sur tout ce qui est du marketing digital. Et dans sa manière de penser et sa manière d'opérer, je me suis tout de suite aligné avec ce qu'il mettait en avant. et notamment le fait de produire du contenu gratuit, de partager, de prendre cette initiative là, ça vient de lui. Donc sur le côté contenu, il y a lui, il y a aussi un gars qui s'appelle Alex Hormozy qui a commencé à faire surface ces derniers mois et qui, je trouve, a une philosophie de travail très très intéressante aussi, plutôt côté marketing. Après, je dirais sinon de manière générale, un gars qui s'appelle Jordan Peterson qui a eu pas mal d'impact sur moi. J'avais lu son bouquin il y a quelques années en arrière, et à la suite de ça, ou même avant ça, j'avais regardé toutes ces présentations, en parlant de contenu gratuit, des dizaines d'heures de présentations sur des sujets comme la psychologie, sur différents traits de comportement chez l'humain, des choses qui m'ont beaucoup beaucoup servi, que j'utilise au quotidien. Je pense que oui, dans le sens où ça s'est maintenant intégré dans ma manière de penser et de faire les choses. Mais je dirais, s'il y a une personne qui m'a influencé le plus, je dirais que c'est lui. J'ai pas eu la chance de lui parler en direct, donc c'était pas un mentor à ce titre-là. Mais c'est clairement quelqu'un qui a eu une grosse influence dans ma vie et qui m'a beaucoup aidé à avancer. Ouais.
Top. Et en termes de livres, justement, vu que tu en as lu pas mal, est-ce qu'il y en a un, deux ou peut-être trois qui ressortent et tu vois que dès que t'as un doute quelque part, ben tu te replonges là-dedans et tu sais que tu vas trouver ta réponse?
Il y a le gros bouquin de George Brooks qui est Human Physiology, Bioenergetics and its Applications, qui est vraiment un bouquin phénoménal. J'essaie de le voir sur mon étagère. Ouais, c'est Exercise Physiology. Ouais. Human Bioenergetics and its Applications. Et ça, c'est vraiment un bouquin qui est génial, qui traite de tout ce qu'il faut savoir sur le corps humain au niveau de la physiologie de l'exercice. Et je me réfère assez souvent à ce livre-là dans le contexte du sport. En dehors du sport, ça dépend vraiment, mais j'apprécie tout ce qui est du travail de psychologie. Donc, des gars comme Carl Jung, que je trouve très, très intéressant. Jean Piaget aussi au niveau de notamment la psychologie de l'enfant et du développement humain et des connexions sociales. Et pour ceux qui connaissent Peterson, ils savent que lui-même a été très influencé par ces deux penseurs. Et donc, moi, j'ai suivi un petit peu dans cette trace-là. Sinon, il y a un bouquin que je peux conseiller qui est un peu en dehors de ça, qui est Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, qui est un livre qui est extrêmement intéressant si on veut comprendre comment on comprend les choses, comment on pense, comment on réfléchit, comment on est biaisé aussi en tant qu'humain. Et je pense que c'est utile de prendre conscience de ses propres biais et de ses propres limites en tant qu'humain avec un cerveau, tout simplement, parce que ça nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel on opère.
Carrément. Sean, s'il y a des gens qui veulent te contacter, te poser des questions, où c'est qu'on peut te joindre? Tout à l'heure, tu as parlé YouTube, Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux où tu es actif?
C'est les deux où je suis le plus actif. Je pense que les DM sur Insta, c'est là où tu as le plus de chance. Par email aussi, si c'est une requête un petit peu plus concrète. Mais ce seraient les deux moyens de me contacter assez facilement. Et sinon, pour ceux qui regardent les vidéos sur YouTube, n'hésitez jamais à laisser un commentaire. J'arrive au stade où malheureusement, j'arrive plus à répondre à tout le monde en termes de commentaires. Mais par contre, je les lis tous. Donc, n'hésitez jamais à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir.
Top. Sean, pour finir, j'ai deux questions. Quelle est à toi ta définition de la performance?
C'est une très bonne question, Julien. Il faudra que tu me donnes une minute.
Vas-y, prends le temps qu'il faut.
Je dirais que c'est le fait de mettre à contribution toutes ces qualités physiques, psychologiques, dans le but d'atteindre un objectif de compétition. Je sais que c'est un petit peu large, mais je pense que la question est assez large aussi. Donc voilà, mettre à profit ou organiser toutes ces compétences physiques et psychologiques avec comme objectif le fait de performer dans un sport ou dans l'autre. C'est le mieux que je puisse faire avec le peu de temps de réflexion que j'ai eu.
c'est parfait, t'inquiète. Et alors, pour finir, comment tu construis ton propre haut niveau?
Mon propre haut niveau, en essayant de toujours faire mieux, en essayant de toujours répondre à la demande et aller au-delà de, je pense, donc mes barèmes de performance, ils sont beaucoup basés sur les retours que j'ai de ma communauté et des gens avec qui je travaille. Donc, je prête beaucoup d'importance au retour que je peux avoir des gens avec qui je travaille, que ce soit des athlètes, des coachs ou autres. Et moi, ça me permet de toujours m'assurer que je sois aligné avec les attentes et que je puisse fournir le meilleur job possible, toujours aller au-delà et toujours donner le meilleur service possible. C'est un de mes axes de travail principaux. Donc pour moi c'est simplement on va dire un élan au quotidien pour essayer de mieux faire, de toujours répondre à la demande et même aller au-delà, avec bien entendu le feedback des gens avec qui je travaille, de la communauté, pour m'aiguiller et toujours essayer d'avancer.
Top, super. Sean, merci beaucoup.
Merci à toi, Julien.
Avec grand plaisir, et voilà, je te souhaite une bonne journée et à très bientôt.
Merci, toi aussi.
Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.